France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Olivier Dehaye et un brelant d'Emmanuel, Emmanuel Morse-Duncan, Emmanuel Benito et Emmanuel Rose. Voici une émission que nous allons consacrer au compositeur français, non pas Emmanuel, mais Louis Vierne, né il y a 150 ans, jour pour jour, le 8 octobre 1870 à Poitiers. Louis Vierne, compositeur décédé en 1937, comme Maurice Ravel, comme Albert Roussel, George Gershwin ou encore Karol Szymanowski. Louis Vierne, nous écouterons aujourd'hui des œuvres symphoniques, de la musique de chambre, comme son somptueux quintet pour piano et cordes qu'il avait écrit au lendemain de la mort de son fils Jacques, tué au combat en 1918. Et bien sûr, de la musique d'orgue, car pendant 37 ans, de 1900 à 1937, Louis Vierne fut le titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris, comme en témoigne cet enregistrement du 17 novembre 1928. Louis Vierne a 58 ans et il improvise à Notre-Dame.
Thank you.
C'est le scherzo de la deuxième symphonie pour orgue, opus 20 de Louis Vierne, que nous entendions sur France Musique, joué sur l'orgue de Notre-Dame de Paris par Pierre Cochereau, successeur de Louis Vierne à cette prestigieuse fonction et grand interprète de la musique de Louis Vierne, dont c'est aujourd'hui le 150e. On pense bien évidemment avec beaucoup d'émotion à cet orgue rescapé du terrible incendie de Notre-Dame. Cet orgue était en attente de restauration, en tout cas de nettoyage. On l'attend avec grande impatience de retrouver ce merveilleux instrument dont Louis Vierne a été le titulaire pendant 37 ans, de 1900 à 1937. Je le disais, Louis Vierne a vu le jour le 8 octobre 1870 à Poitiers, d'un père journaliste poitevin et d'une mère au foyer savoyarde. Louis Vierne vient au monde avec une cataracte congénitale qui le rendra rapidement et définitivement aveugle. Louis Vierne parlera plus tard de l'extraordinaire tendresse dont l'entoure ses parents et de l'éducation musicale qu'il reçoit tout d'abord à Poitiers et ensuite à Paris. Son éducation, il l'a fait à l'Institut National des Jeunes Aveugles et puis au Conservatoire de Paris auprès de deux grands organistes, César Franck, malheureusement assez brièvement puisque Franck meurt peu de temps après l'arrivée de Louis Vierne, et surtout Charles-Marie Vidor, grand organiste qui va prendre en main le début de la carrière de Louis Vierne en l'invitant bien évidemment à travailler l'orgue mais aussi la composition. Et très rapidement, bien le catalogue de Louis Vierne va s'étoffer avec des partitions pour orgue, c'est sûr, mais également de la musique de chambre. Voici en 1903, c'est un Louis Vierne déjà de 33 ans, qui écrit une canzonetta, l'argo canzonetta, pour hautbois et piano.
Thank you.
C'est le pianiste Olivier Gardon que nous entendions dans la suite bourguignonne opus 17 de Louis Vierne. En tout cas, la sixième partie de cette suite bourguignonne, une danse rustique. Olivier Gardon qui, juste avant, accompagnait le oboïste Christian Moreau dans un largo et canzonetta pour hautbois et piano, donc de Louis Vierne. Deux partitions des tournants des 19e, 20e siècle. 1903 pour la partition hautbois et à l'instant 1899 pour cette suite bourguignonne. En 1899, Louis Vierne était encore le suppléant de Charles-Marie Vidor à l'église Saint-Sulpice, aux orgues de l'église Saint-Sulpice à Paris, avant de devenir l'année suivante, ce sera sa grande consécration, l'organiste titulaire de l'orgue de Notre-Dame de Paris. Voilà une vie qui semble réjouissante comme cette danse rustique, et pourtant la biographie de Louis Vierne est parsemée de malheurs, comme l'écrit Harry Albrecht. Sa biographie est une pathétique succession d'horribles tortures physiques, de deuils, de déceptions professionnelles, de trahisons privées et publiques qui eussent suffi mille fois à abattre une âme moins solidement trempée que la sienne. Par son hypersensibilité, son sens tout romantique du drame et sa propension à magnifier tous ses sentiments de joie, trop rare, comme de douleur, presque permanente, cet homme que la vie épargna si peu était tragiquement doué pour la souffrance. Il est admirable qu'il ait pu ainsi la transfigurer en musique. Et Louis Vierne, qui était organiste avant tout et avait également étudié le piano, mais aussi le violon, ce qui fait qu'en 1905-1906, à la suite d'un de ses drames privés, il écrit une sonate opus 23 créée par le grand violoniste Eugène Isaïe et par le pianiste Raoul Pugnot. Sonate, dont voici ici un extrait sur France Musique avec la violoniste Elsa Gretter et le pianiste François Dumont. Thank you. Le premier mouvement de la sonate en sol mineur opus 23 de Louis Vierne par Elsa Gretter au violon et François Dumont au piano. Voilà une partition très marquée par l'œuvre de Gabriel Fauré. Certes, Louis Vierne était un disciple de Franck et de Vidor, mais la musique de Fauré a été très importante pour lui. D'ailleurs, en cette même année 1907, il dédie sa symphonie en la mineur à Gabriel Fauré, ce qui n'empêchera pas plus tard Fauré d'écarter Louis Vierne du poste de professeur d'orgue conservatoire, mais ça c'est une autre histoire. Voici un enregistrement maison, c'est l'orchestre Philharmonique de l'ORTF, dirigé par Georges Tsipine, dans un extrait de cette symphonie en la mineur, opus 24 de Louis Vierne.
Thank you.
L'orchestre philharmonique de l'ORTF dirigé par Georges Tsipine, c'était le final de la symphonie en la mineur opus 24 de Louis Vierne.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Voilà une partition tourmentée qui est contemporaine de crises conjugales qui vont aboutir au divorce de Louis Vierne en 1909. Mais le pauvre Louis Vierne n'est pas au bout de ses peines et il va vivre une année noire en 1911. Cette année-là, sa mère meurt à 66 ans. Alexandre Guillemant, professeur d'orgue du Conservatoire de Paris, dont il est depuis des années l'assistant, meurt quelques jours plus tard. Vierne pense qu'il sera consolé en obtenant sa succession et le poste. C'est ce que souhaitait Guillemant, c'est ce que suggère Charles-Marie Vidor à Gabriel Fauré, directeur du conservatoire. Mais Fauré refuse la candidature de Vierne et nomme à la place de Guillemant Eugène Gigou. C'est un nouveau coup de poignard pour Louis Vierne qui va se réfugier dans la composition, lieu d'expression de ses tourments, de ses angoisses et malgré tout de ses espoirs. C'est à Pablo Casals que Louis Vierne avait dédié cette partition sonate opus 27, ici interprétée par le violoncelliste Ivan Cifolo avec au piano Olivier Gardon. Autre partition de cette sombre année 1911 pour Louis Vierne, une merveilleuse partition pour orgue dont Michel Roubinet dans le guide de la musique d'orgue écrit que c'est la clé de voûte de l'œuvre d'orgue de Vierne. Troisième symphonie en fa dièse mineur dont l'adagio est, je cite, une longue méditation entièrement construite sur l'énoncé rythmique et mélodique des trois premières mesures à la pédale. C'est l'une des plus merveilleuses réussites de Vierne sur le plan formel comme sur celui de l'expression d'une noblesse grave et douce, fière et douloureuse.
Thank you.
C'est l'organiste Franck Bézingrand que nous entendions sur l'orgue Puget de Saint-Amand de Rodez dans cette troisième symphonie pour orgue en fa dièse mineur, l'Adagio de cette partition que Louis Vierne a conçue en 1911. Franck Bézingrand qui a consacré tout un livre chez Bleu Nuit éditeur au compositeur Louis Vierne, le livre paru chez 2011, c'est-à-dire un siècle après cette année catastrophique 1911 sur le plan privé, mais cette année richissime sur le plan musical pour Louis Vierne. Et l'année suivante, eh bien Louis Vierne a un peu de répit puisque malgré son éviction du Conservatoire de Paris, il est accueilli à bras ouverts par Vincent Dindy à la Schola Cantorum. C'est là qu'il devient professeur d'orgue. Il va voir parmi ses élèves Lili Boulanger ou encore Maurice Duruflet. 1912, c'est l'année de ce poème symphonique pour ténor et orchestre, Les Jeans, sur un poème de Victor Hugo. Ce sont bien sûr des génies orientaux que ces Jeans, des J-I-2-N-S, ici interprétés par Steve Davis Lim.
Dur fil et pont asile de mort. Mer grise aux prises, la prise tout or. Dans la plaine est un bruit, c'est la laine de la nuit, elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble grelot, un mec qui saute, c'est le calot. S'élance, puis en cadence, sur un pied dans un dos d'un flanc. La rumeur approche, écho la redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit.
Thank you.
écoute la nuit, j'écoute tout fuir. Tout passe, l'espace efface le bruit.
C'est le ténor Steve Davis-Lim que nous entendions avec l'orchestre symphonique du Queensland, dirigé par Guillaume Tournière, dans Les Jeans, opus 35 de Louis Vierne, sur un poème de Victor Hugo. La guerre éclate en 1914 et Louis Vierne replonge dans les angoisses. Lui qui était, je disais, aveugle, en tout cas très malvoyant, voit la cécité progresser du fait d'un glaucome. Ses élèves partent pour la guerre, son fils Jacques, ses deux frères. Et là encore, il se réfugie dans la musique et aussi dans la poésie, comme en témoignent ses partitions opus 38 de 1916 sur des poèmes de Paul Verlaine, avec tout d'abord « À une femme » chantée par la soprano Carola Pavone, au piano Boris Radulovitch.
Thank you.
Je ne vois plus rien, dit notamment Paul Verlaine dans ce poème Un grand sommeil noir, et bien évidemment sous la plume de Louis Vierne, cette phrase prend une profondeur très particulière. Spleens et détresse, voilà le titre de cet opus 38 dont nous écoutions deux extraits, d'abord avec Carola Pavone, soprano, et à l'instant avec la soprano Iva Barthélémy et l'orchestre philharmonique de l'ORTF dirigé par Georges Tsipine.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
À partir de 1916, Louis Vierne est dans un sanatorium de Lausanne pour se faire soigner des yeux avec des douleurs atroces. Et c'est là qu'il apprend la mort de son frère cadet, René Vierne, le 29 mai 1918, à l'âge de 40 ans. René Vierne qui était également organiste et compositeur. Et surtout, c'est là qu'il apprend la mort de son fils Jacques, qui a 17 ans, mort le 11 novembre 1917. Il écrit aussitôt un quintet pour piano et cordes, qu'il écrit comme une sorte d'ex-voto à ce fils mort pour la France, c'est ce qui est écrit sur la partition. Tué au combat, disais-je, c'est en tout cas la version officielle. Ses biographes se demandent si Jacques Vierne n'aurait pas fait partie des fusillés pour l'exemple. Quoi qu'il en soit, Vierne, pétri de douleurs atroces tant physiques que morales, songe au suicide. Et là encore, il va trouver le courage d'écrire des partitions, et notamment cette partition qui est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique de chambre de cette époque. Quintet en do mineur opus 42, dont voici le troisième mouvement avec Mozart au basse quitté au piano et le quatuor terpsichore.
Thank you.
j'édifie en ex voto, un quintet de vastes proportions dans lequel circulera largement le souffle de ma tendresse et la tragique destinée de mon enfant. Je mènerai cette œuvre à bout avec une énergie aussi farouche et furieuse que ma douleur est terrible, et je ferai quelque chose de puissant, de grandiose et de fort qui remuera au fond du cœur des pères les fibres les plus profondes de l'amour d'un fils mort. Moi, le dernier de mon nom, je l'enterrerai dans un rugissement de tonnerre et non dans un bêlement plaintif de mouton résigné et béat. Voilà ce qu'écrit Louis Vierne après la composition de son quintet en do mineur opus 42. Nous écoutions un extrait avec la pianiste Musa Rubatskité et le quatuor terpsichorde. Louis Vierne traverse un à un tous les cercles de l'enfer en la Première Guerre mondiale, avec la mort de son fils, avec le départ de sa deuxième femme, Jeanne Montaugé, et puis le coup de grâce et la mort le 29 mai 1918 de son frère René Vierne, organiste et compositeur, pulvérisé par un obus et pour qui il écrit une partition intitulée « Solitude ». « Je t'ai donné la sépulture que Dieu t'avait refusée. Ta tombe, c'est dans mon cœur que je l'ai creusée. »
Thank you.
La ronde fantastique des revenants. Voilà le titre de cette partition extraite de Solitude, opus 44, que Louis Vierne avait dédié à son frère René, mort au combat. Et c'est Mouzard Roubatskité que nous entendions dans cette partition. Louis Vierne qui revient à Paris et qui sera aidé d'amis pour retrouver son orgue, l'orgue de Notre-Dame de Paris, retrouver une vie normale, des élèves, et puis bien sûr un logement. Et pendant 17 ans, jusqu'à la fin de sa vie, en 1937, il ne cessera de composer une ballade pour violon et orchestre pour Jacques Thibault, un poème pour piano et orchestre, la ballade du désespéré pour ténor et orchestre et autres carillons de Westminster. Je vous propose de retrouver ce fameux instrument, l'orgue de Notre-Dame de Paris, avec un des successeurs de Louis Vierne, c'est Olivier Latry dans cette pièce de fantaisie. Voilà un instrument que l'on a hâte de retrouver à sa place. C'est l'orgue de Notre-Dame de Paris, joué par Olivier Latry dans une des pièces de fantaisie pour orgue opus 54 de Louis Vierne. Et je vous signale que dimanche prochain, en l'église de Saint-Sulpice, eh bien Daniel Roth et Carole Mossakowski rendront hommage à Louis Vierne à l'issue de l'office à midi pour un concert d'orgue.
À réécouter sur francemusique.fr.